Il est 20h à Paris, 14h à Washington, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le retour historique de Donald Trump à la Maison-Blanche après une victoire sans appel contre Kamala Harris. Un comeback politique extraordinaire qui secoue une Amérique complètement divisée et qui fait également trembler le monde, qui n'a pas oublié le caractère imprévisible, impulsif de Donald Trump dans la gestion des affaires internationales. Inquiétude notamment en Ukraine, nous irons dans les rues de Kiev, où le pessimisme prévaut face au risque que ne se tarisse désormais l'aide américaine. Inquiétude plus largement des dirigeants européens, échaudés par le credo de l'Amérique d'abord, choyé par Donald Trump lors de son premier mandat. Enfin, nous entendrons l'extrême contentement en revanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ravi lui de retrouver son ami Trump à la Maison-Blanche après 4 ans de gestion démocrate à Washington. Comme en 2016, sa victoire a été nette et rapide. En quelques heures, la nuit dernière, Donald Trump a raflé tous les swing states, les états pivots, faisant le plein d'une majorité de grands électeurs et remportant également le vote populaire. Un comeback d'autant plus extraordinaire que sa campagne a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations et une condamnation pénale. Mais pas de quoi visiblement effrayer une majorité d'Américains qui l'ont préféré à la candidate démocrate Kamala Harris, qui, comme Hillary Clinton il y a 8 ans, s'est heurtée au plafond de verre. Donald Trump élu 47e président des États-Unis entrera donc en janvier prochain à la Maison-Blanche avec cette fois les quasi pleins pouvoirs, les républicains s'étant également emparés du Sénat. Un retour au pouvoir qui provoque une onde de choc, plonge les États-Unis et le monde dans une ère d'incertitude. Sur le sol américain, face à la joie des partisans trumpistes, l'inquiétude en revanche dans le camp progressiste, toute une partie de la population américaine qui redoute plus de violence dans le pays après une campagne très tendue et outrancière du milliardaire américain. Reportage dans les rues de Détroit de notre envoyé spécial Lumna Anaki.
Shocking, to say the least.
Calvin n'arrive toujours pas à y croire. Il n'était pas certain que Donald Trump, son candidat, allait gagner.
Il y avait beaucoup d'obstacles. C'est pour ça que j'étais surpris de le voir en tête. C'est une belle revanche politique.
Cet étudiant de 24 ans fait partie des millions d'électeurs qui ont voté pour le républicain dans le Michigan. Mais à Détroit, où Kamala Harris est en tête, on accuse le coup.
Les injures ont volé chez moi la nuit dernière. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. C'est terrible.
J'espère que ça ne sera pas aussi dramatique que durant son premier mandat. En tant que jeune femme, je suis vraiment inquiète.
Ces électeurs déçus, parfois en colère, estiment que les démocrates devraient se poser des questions sur leur choix et leur stratégie de campagne.
On les a trop entendus dire « on n'est pas Trump, vous devez voter pour nous ». Mais personne ne veut être coincé et obligé à voter comme ci ou comme ça.
Les démocrates sont champions quand il s'agit de perdre et puis ils vont accuser tout le monde de leur mauvaise campagne. Généralement, ça tombe sur une des minorités, comme si c'était elles, les responsables.
Joe Biden s'est-il retiré trop tard? Kamala Harris était-elle la bonne candidate? Son programme était-il assez clair? Ce sont certaines des questions auxquelles les démocrates vont désormais devoir répondre dans les semaines et mois à venir. Lubna Anaki, Détroit, RFI.
Et inquiétude dans le reste du monde également, même si Donald Trump a reçu une pluie de félicitations de responsables étrangers, du président français Macron à l'Ukrainien Zelensky, en passant même par les talibans d'Afghanistan. Dans les rues de Kiev, en tout cas, c'est le pessimisme qui prévaut face au risque que ne se tarisse désormais l'aide américaine à l'Ukraine. À Kiev, la correspondance d'Emmanuel Chasse.
En Ukraine, les félicitations de Volodymyr Zelensky à Donald Trump sont très appuyées. Le président ukrainien parle de victoires impressionnantes et il rappelle la rencontre de septembre aux États-Unis en louant Donald Trump et, je cite, son attachement à la méthode de la paix par la force. Pour Volodymyr Zelensky, ce principe pourrait se rapprocher de ce qu'il nomme une paix juste en Ukraine. Il parle de gouvernance décisive du président Trump et d'espoir de voir un soutien bipartite puissant, sachant qu'au cours de ces 2 ans, il y a eu des visites fréquentes de délégations démocrates et républicaines en Ukraine. Volodymyr Zelensky rappelle aussi que l'Ukraine souhaite assurer la paix et la sécurité à long terme en Europe. Du côté de la population, c'est surtout l'inquiétude en raison du caractère imprévisible de Donald Trump et de sa position floue quant au plan pour la victoire ukrainienne. Alors que Donald Trump se targue de pouvoir arrêter les guerres, les Ukrainiens, eux, s'inquiètent de savoir comment ils comptent s'y prendre, car ici, on n'envisage pas de négociations impliquant des concessions territoriales, malgré une situation sur la ligne de front qui s'est considérablement détériorée ces dernières semaines. Dernière inquiétude, enfin, les États-Unis sont le plus gros soutien militaire de l'Ukraine. Les Ukrainiens attendent donc de voir ce qui va advenir de cette aide sous une nouvelle présidence de Donald Trump et un Sénat républicain. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
De son côté, Vladimir Poutine, lui, n'a pas prévu de féliciter Donald Trump, nous dit le Kremlin, qui indique néanmoins que le président russe travaillera avec lui tout en poursuivant tous ses objectifs en Ukraine. Et de fait, pendant que le monde regarde cette incroyable élection américaine, le maître du Kremlin pousse, lui, ses pions en Ukraine. La chambre haute du Parlement russe a ainsi ratifié ce matin le traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, dont des soldats sont déjà, selon Kiev et Washington, sur le point de rejoindre les Russes qui combattent les forces ukrainiennes dans la région de Kursk. Sur le front européen, malgré, on l'a dit, cette pluie de félicitations adressée à Donald Trump, c'est la douche froide. Hormis pour les populistes Giorgia Meloni en Italie, Viktor Orban en Hongrie, les dirigeants européens, eux, n'ont pas oublié le caractère imprévisible du président américain lors de son premier mandat, son credo en faveur de l'Amérique d'abord et la crainte surtout d'un désengagement américain en matière de sécurité sur le continent européen. Le chancelier allemand Scholz et le président Macron ont ainsi tous deux appelé aujourd'hui à la nécessité d'œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte et plus souveraine. Pour l'ancien président socialiste François Hollande, ce nouveau mandat de Trump pourrait être pire que le premier. François Hollande.
Et là, Donald Trump, c'est pas le même que celui qui est venu pour un premier mandat. Non seulement il va faire ce qu'il a dit, mais il va le faire sans limite, sans contrainte. Et sans préoccupation de ce qu'on appelait autrefois l'Occident ou le lien transatlantique. Dans ces conditions-là, pour ceux qui se réclament de Donald Trump, il y en a ici, il y en a en Europe. Eh bien, ils vont voir ce que c'est. Parce que ça ne va pas forcément nuire aux Américains. C'est à voir, mais pas forcément. Mais ça va nuire aux Européens. Si c'est ça qu'on veut, si on veut créer dans chaque pays un frein aux échanges, un protectionnisme et, d'une certaine façon, un abandon de ce que sont nos valeurs communes, des principes démocratiques, bien allons-y. Mais de ce point de vue-là, ce qui va se passer pendant 4 ans va éclairer, je pense, une bonne partie de nos concitoyens ici. Donc ceux qui se réclament de Donald Trump, et il y en a à voix haute dans l'extrême droite la plus radicale, à voix basse au Rassemblement national, en soutenant Donald Trump comme ils l'ont fait, ils vont voir les conséquences pour les Français.
L'ancien président François Hollande. Et enfin, dans ce concert d'inquiétude, la joie non dissimulée en revanche en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été l'un des premiers dirigeants à saluer la victoire de son ami Trump, le félicitant pour le plus grand retour de l'histoire. Après plus d'un an de guerre à Gaza, alors que le conflit s'est étendu dans la région et que plane la menace d'une confrontation avec l'Iran, quelles peuvent être les conséquences de l'élection américaine au Proche-Orient ? Analyse Nicolas Falaise.
L'administration démocrate qui vient d'être battue s'était enfermée dans une impasse au Proche-Orient. Avec un soutien continu à Israël dans sa guerre à Gaza, sous la forme de milliards de dollars d'armes et de munitions, avec des critiques, parfois sévères, adressées à Benjamin Netanyahou et à son gouvernement, mais sans pression suffisante pour imposer un cessez-le-feu. Ce matin, le Premier ministre israélien s'est précipité sur les réseaux sociaux pour féliciter Donald Trump dans un message dithyrambique qui salue un puissant réengagement dans l'alliance entre les deux pays. Avec le retour du républicain à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou espère une politique américaine aussi favorable que celle du premier mandat Trump. À l'époque, les États-Unis ont déchiré l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, bafouant le droit international comme les revendications palestiniennes, en épousant totalement la vision de la droite et de l'extrême droite au pouvoir en Israël.
Il est 20h10 à Paris, fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Axel.